L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Alors Lionel, aujourd'hui c'est la fin de notre voyage dans le temps des forêts haute-corréziennes, c'est bien ça?
Eh oui, Maëlina, nous allons reparcourir ces 23 dernières années pour nous arrêter sur les événements et faits marquants qui ont façonné la forêt que nous connaissons aujourd'hui et qui nous amènent à parler des mesures industrielles face aux catastrophes naturelles de l'an 2000 à nos jours.
Alors, mesures industrielles face aux catastrophes naturelles, on pourrait presque croire à de la science-fiction. On pense vraiment que le développement de l'industrialisation forestière était une bonne réponse aux tempêtes?
Pas forcément une bonne réponse, Maëline, en effet, mais une très large conséquence des tempêtes de 99, de la sécheresse de 2003 et sans oublier de la tempête Klaus en 2009. Avec 140 millions de mètres cubes de bois pour Martin et Lothar en 99, en 2003, l'émergence d'une cellule de crise sécheresse avec une forte augmentation du dépérissement des forêts dans le centre et l'est de la France et les 43,3 millions de mètres cubes versés par Klaus dans le sud-ouest. Tout cela offre quelque part, au détriment des propriétaires forestiers, de forts volumes de bois à transformer par les scieries et papeteries qui doivent augmenter leur capacité de stockage et la rapidité du process de transformation. Presque un effet d'aubaine pour l'aval de la filière et malheureusement, l'amont n'a pas su y réagir. On pourrait presque parler de retour aux routines.
Un retour aux routines, c'est-à-dire?
Eh bien, si on prend l'exemple du sud-ouest, presque 10 ans après la tempête Klaus, le risque d'un changement d'usage des sols forestiers, un temps agité par les acteurs de la filière, ne s'est pas réalisé. Sur les 204 000 hectares éligibles, 198 000 sont nettoyés et 192 000 sont prévus à la plantation. Quant aux pistes visant à introduire une plus grande diversité d'essences, elles ont totalement disparu des options choisies par les propriétaires puisque 95% des reboisements sont réalisés dans le sud-ouest en pin maritime. Il se passe sur le plateau de Millevaches exactement la même chose pour le Douglas en 99. Quant à la clause biodiversité censée s'appliquer jusqu'à 30% des surfaces détruites, elle n'a finalement été mise en œuvre que sur 6% des surfaces éligibles. Contrairement aux bonnes résolutions des forestiers pour changer la composition monospécifique et les traitements trop réguliers, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui les peuplements post-tempête soient des exemples de peuplements mieux adaptés à ces risques. On peut aussi penser aux incendies de l'été dernier d'ailleurs.
Ok, alors on imagine qu'il fallait replanter vite et digérer tout ça. J'imagine qu'après 2019, les forestiers ont tiré des leçons de tout ça?
Alors pour certains, oui, certains forestiers attachés à la loi du 9 juillet 2001 qui dit que la mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général et qui fixe la multifonctionnalité comme moyen de gestion durable. Mais un fait marquant vient ébranler toute la filière et s'incarne sous la forme d'un seul homme. Nicolas Sarkozy, dans son discours du 19 mai à Urmat, considère la forêt française comme un atout sous-exploité. Il présente la filière forêt-bois, au deuxième poste du déficit extérieur avec un solde négatif de plus de 6 milliards d'euros en 2008. Il ajoute que la filière prélève uniquement 60% des accroissements naturels, ce qui, pour lui, est un formidable oubli, gâchis économique sur fond de crise des subprimes. Et oui, il ne savait pas que tout ce qui est dans l'arbre ne doit pas forcément être retiré de la forêt. Il fixe donc un objectif incroyablement provocateur avec des punchlines dont il avait le secret. La filière forêt-bois doit fournir en énergie le tiers de l'effort de la France, qui s'est engagé à faire passer la part des énergies renouvelables de 9% à 23% de sa consommation d'ici à 2020. Il dit en gros que la filière forêt-bois doit produire l'équivalent de 6 centrales nucléaires.
En 12 ans, de 2010 à 2020, il a voulu que la forêt produise comme 6 centrales nucléaires. Waouh, c'est ambitieux. Est-ce que c'est arrivé?
Eh bien, on est en plein dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2022, sur 40 millions de mètres cubes récoltés en un an, 9,4 millions de mètres cubes sont du bois énergie, contre 3,8 en 2010. En fait, au début, on pensait que le bois énergie serait principalement alimenté par les produits connexes, mais de plus en plus de peuplements forestiers spontanés, comme des ripisylves, les bosquets, les tiers paysages, comme les appelle Gilles Clément, qui structurent le paysage, qui sont des écosystèmes indispensables à nos conditions de vie sur Terre, ont été brûlés pour nous chauffer ou nous éclairer. En 2009, Sarkozy aborda aussi pour la première fois la création d'une banque carbone, dont les chevilles ouvrières seront Jean-Louis Borloo, instigateur des Grenelles sur l'environnement, et Christine Lagarde, chef d'orchestre à Bercy et future présidente du FMI. Nous reparlerons dans une future chronique de ces banques de carbone. Deux ans après, le 28 avril 2011, Sarkozy se rend à Égletons pour inspecter les premiers résultats liés aux mesures annoncées. Ici, il mettra en avant l'importance de la politique industrielle, de sa compétitivité et du maintien des territoires productifs. Les grosses industries de la filière bois seront confortées. Sarkozy considère que la filière bois est une filière industrielle majeure.
Donc on comprend mieux comment on est passé d'un constat d'urgence à reconstruire une forêt à vite, il faut plus de bois. Mais tout ça, Lionel, le grand public le découvre au même rythme que la forêt pousse, c'est-à-dire très doucement. Est-ce que ça génère des tensions, non ?
Oui, bien sûr, il y a toujours donc des tensions sur le plateau de Millevaches, hein, comme on a pu les présenter des années 70 à 2000. Donc les habitants du plateau de Millevaches s'opposent à des pratiques en forêt, comme celles provoquées par le plan pluriannuel régional de développement forestier, le fameux PPRDF, qui prévoit d'augmenter le prélèvement dans les forêts feuillues. Comme 95% de la forêt est très morcelée, hein, ça fait 24 000 propriétaires différents, des points de friction sont nombreux et naissent. Et au droit de la propriété forestière, les habitants y opposent leur attachement aux arbres et à la forêt, perçus comme des biens communs. Plusieurs exemples, hein, par exemple à Rampena, en 2013, au village du Fournet, trois personnes riveraines s'opposent à l'abattage d'un arbre, un être remarquable situé en bordure d'une coupe rase. Les bûcherons renoncent à abattre l'arbre, le propriétaire menace de poursuivre les opposants. Quelques jours suivent et finalement l'arbre reste et les poursuites sont abandonnées. À Ned, vaste coupe de feuillus, le maire est mis devant le fait accompli. Initialement informé d'une coupe de 1000 stères, le maire se rend compte que la coupe en fait couvre 20 hectares. Les autorités sont saisies et dans le même temps, des parcelles situées sur le périmètre classé sur la commune font l'objet d'un compromis de vente. Le potentiel acquéreur est connu pour tout raser et replanter en résineux.
D'accord. Et les autorités publiques dans tout ça ?
Eh bien, ce plan, le PPRDF, a été établi par la DRAF en 2012 et élaboré par les seuls professionnels du bois. La consultation publique durait un mois et les associations n'ont pas eu le temps de proposer des alternatives. La plupart des professionnels l'avaient bien accueilli, mais encore une fois, les habitants ont été mis de côté. Aujourd'hui, les élus, associations, habitants et professionnels sont mieux concertés grâce à la charte forestière du territoire réalisée et animée par le PNR. Juste aussi un petit mot et une pensée pour celles et ceux qui s'indignent en tentant d'éviter des erreurs de gestion forestière où la main de l'homme ne fait qu'accélérer l'érosion des habitats et l'altération de la résilience forestière, sa vraie durabilité. Un forestier qui aime la forêt ne peut qu'être solidaire avec les habitants de la forêt du Chat.
Belle rétrospective, hein, Lionel. Et pour conclure, on pourrait peut-être se tourner vers l'avenir et tenter de percevoir ce qui nous attend.
Eh bien, en fait, Maïline, on a beau vouloir se projeter pour nos enfants et nos forêts, chaque lendemain est notre avenir. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que nous héritons tous des réflexions personnelles ou communes des hommes et des femmes, techniciens, politiciens, habitants, et qui ont forgé notre forêt du plateau pendant ces 140 dernières années. Cela paraît beaucoup, mais à l'échelle d'un arbre, c'est très peu. Et en fait, si on veut surtout continuer à profiter de notre ressource forestière pour les 140 prochaines années au moins, je pense surtout que l'homme doit lâcher un peu prise avec son environnement, faire confiance à la nature. Cela en évitant d'accélérer la fréquence des mesures qui visent à régir ces habitats construits de vivant et qui, face aux enjeux liés aux modifications que nous, Homo sapiens sapiens, portons sur notre terre, devons cultiver, récolter et utiliser avec respect. Pour conclure, l'ensemble de cette fresque historique forestière, disons simplement que cette histoire, eh bien, qu'elle continue, comme le couvert d'une forêt équilibrée, et qu'elle n'aura certainement pas de fin, sinon la mienne, la nôtre.
C'est un bon début, hein, puisque vous, Lionel, amoureux de la forêt, vous venez nous faire découvrir l'histoire de nos forêts corréziennes. Merci à vous.
Avec plaisir, toujours.
Vous nous quittez en musique.
Ouais.
Sur un morceau de...
De Low, qui s'appelle No End.
Merci Lionel, à bientôt. I couldn't wait to come back through.